Je suis heureux de vous saluer pour cette table ronde sur la formation doctorale dans sa nécessaire diversité, que je présenterai d'abord au titre du droit, puis Madame Maignan, au titre des SHS, comme on dit, des sciences humaines et sociales, Madame Nogrette pour la création artistique, Madame Pommier pour les disciplines, peut-on dire, de sciences dures.
Oui, enfin,
c'est une expression de juriste, bon, voilà. Alors vous direz vous-même. Madame Paul doit intervenir, mais elle est retenue au ministère, et donc elle arrivera à 14h30, et elle prendra la parole à ce moment-là. Alors, 10 minutes chacun, et il faut que je donne l'exemple. Formation doctorale dans sa nécessaire diversité. Je dois dire que ce qui m'enchante personnellement, c'est le mot « diversité ». Il est tellement rare dans le vocabulaire de la rue Descartes, à laquelle les juristes, en tout cas, reprochent souvent de vouloir faire de l'uniformité disciplinaire à tout prix. Et là, nous allons parler d'une double diversité, celle du parcours professionnel, de l'avenir professionnel de nos doctorants, et à travers chacune des interventions, la diversité des disciplines. C'est du moins le mandat que vous nous avez confié. Alors, pour ce qui est du droit, notre doctorat vit une évolution qu'on pourrait qualifier de révolution sans excès. En ce sens que, il y a à peine 15 ans, 100% des doctorants en droit se destinaient à la carrière universitaire, et qu'au demeurant, je l'ai fait moi-même souvent, si quelques malheureux venaient nous voir en disant « je voudrais faire une thèse, mais l'université non », nous le décourageons systématiquement en lui disant « mon pauvre ami, vous vous fourvoyez dans une voie sans issue ». Aujourd'hui, c'est à peu près les deux tiers des nouveaux entrants dans les écoles doctorales qui d'emblée nous disent « je ne veux pas faire la carrière universitaire ». Je veux faire un doctorat dans une autre perspective professionnelle. Et si les effectifs des doctorants en droit ne baissent pas, c'est uniquement parce que ces deux tiers-là ont remplacé les autres. Il n'y a plus qu'un tiers de nos doctorants qui, en gros, dans l'ensemble des facultés de droit françaises, se destinent à la carrière universitaire. Alors, c'est une évolution que nous commençons à assez bien connaître. D'abord parce qu'elle a été étudiée par le Conseil national du droit, qui a été créé en 2008 et recréé par un décret en 2014, et qui a lancé une enquête auprès de tous ses membres, c'est-à-dire, pour ce qui est de sa composante non universitaire, de tous les employeurs publics ou privés de juristes, pour connaître leur attente, leur appétence, pour des docteurs en droit, pour employer des docteurs en droit. C'est d'ailleurs assez indistinct, sauf massivement pour les carrières juridiques internationales, que ce soit dans des organisations internationales publiques, dans des institutions privées ou de grands groupes d'entreprises. Là, incontestablement, le doctorat est un atout et sera probablement une condition sine qua non pour arriver à des emplois très élevés. Pour le reste, c'est plus fou. Alors, comment faisons-nous ? L'association, la jeune Association nationale des directeurs d'écoles doctorales de droit y réfléchit à de bonnes pratiques, mais sauf à être démenti, notamment par les directeurs d'écoles doctorales de droit qui sont dans cette salle, on aperçoit au moins un, on a un peu de peine. Il y a un filon, une filière qui est très, enfin, oui, qui est évidemment très adaptée, ce sont les conventions CIF, les doctorants en droit sous conventions CIF, où là, il y a de manière presque automatique un apprentissage de la vie en entreprise, de la vie en cabinet, ou plus rarement de la vie en administration par le doctorant qui lui est directement utile une fois qu'il est docteur. En revanche, nous peinons un peu pour l'instant à adapter la formation que nous donnons à nos doctorants et qui a été plutôt calibrée sur le modèle carrière universitaire, à l'adapter aux besoins des doctorants qui se destinent à l'administration, aux juridictions, aux professions libérales juridiques, aux administrations, aux entreprises. L'éventail est large. Nous essayons bien entendu de le faire. Il y a des pratiques, pour autant que je le sache, très différentes pour l'instant d'une école doctorale à l'autre, mais même dans les cas les plus dynamiques, pour l'instant, il s'agit essentiellement de cycles de conférences avec des professionnels non universitaires pour commencer à dire à nos doctorants voilà ce qu'est une administration, voilà ce qu'est une entreprise, parce que c'est ce que nous demandent les employeurs finaux. Donnez-nous des docteurs. Certains disent ne nous en donnez surtout pas. Mais pour ceux qui sont prêts à les employer, bien sûr des docteurs en raison de la compétence de recherche particulière, de la production d'idées juridiques nouvelles qu'ils ont et que n'a pas un simple titulaire de M2, mais il faut, un, qu'il soit modeste, ça nous a souvent été dit, il ne faut pas qu'il débarque dans son administration ou son entreprise en disant « poussez-vous, je suis docteur, j'en sais plus que tous les autres », notamment dans les services juridiques. Il faut, deux, et c'est notre problème, qu'il soit très rapidement utilisable, c'est-à-dire qu'il sache déjà ce qu'est une administration, ce qu'est une entreprise, un peu ce qu'est une juridiction, ce qu'est une comptabilité, ce pourquoi les juristes ne sont pas très doués. Bon, voilà ce que je voulais dire en introduction pour présenter la formation doctorale dans sa nécessaire diversité du point de vue du droit. Et je vous passe immédiatement la parole pour les SHS et l'exemple du Nord.
Oui, alors moi je vais parler d'un domaine qui a été simplement brièvement évoqué en fin de matinée. Je me suis dit que c'était une transition absolument admirable parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des SHS depuis hier matin. C'est vrai que les SHS posent des problèmes particuliers, ont des modes de travail qui est tout à fait spécifique. Et je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de m'exprimer sur cette question-là, parce qu'on a un peu trop souvent tendance à oublier les SHS qui ont pourtant beaucoup à apporter, je crois, à la société. Alors, je suis donc directrice de l'école doctorale régionale multisite, dite Sciences de l'Homme et de la Société, de la commune Lille-Nord-de-France, qui rassemble 20 laboratoires sur 6 universités, 6 établissements, donc 5 universités et un établissement associé. Cette école doctorale compte environ 600 doctorants, dont 70% à l'université de Lille 3. Alors l'ED a un périmètre très large, puisqu'elle inclut des domaines allant des humanités traditionnelles, l'histoire, l'archéologie, les langues anciennes, les lettres, les langues vivantes, à la psychologie et à l'information communication, en tout 16 sections de CNU, ce qui est absolument considérable. Et cela, naturellement, inscrit la nécessaire diversité des formations au cœur des préoccupations de l'école doctorale. Les perspectives d'emploi à la suite de la thèse sont extrêmement différentes en fonction de la discipline d'inscription de la thèse. Les aspirations des doctorants sont aussi extrêmement différentes en fonction de la discipline d'inscription de la thèse. Ainsi, les psychologues et les doctorants en infocom sont tout à fait ouverts à la perspective de carrière en dehors du secteur académique. Pour eux, c'est une évidence qu'il y a une très forte chance qu'ils intègrent le monde non académique. À l'inverse, c'est vrai que les doctorants du monde des humanités traditionnelles font un doctorat pour intégrer le domaine académique pour devenir enseignant-chercheur. Je veux dire, un latiniste ou un helléniste, je reprends un propos que la présidente de l'université qui est ici présente a évoqué la semaine dernière, un latiniste, un helléniste ne fait pas une thèse pour intégrer l'entreprise. Il faut être clair, leur ambition, c'est vraiment d'intégrer l'enseignement supérieur et la recherche. Bon, il se trouve que les chiffres les plus récents font apparaître cette perspective comme tout à fait plausible, hein, puisque ces dernières années, les 3-4 dernières années, l'insertion à 3 ans des doctorants SHS de notre école doctorale est aux alentours de 54%. On est à 53,6 pour être tout à fait précis, ce qui peut donner à penser à des personnes qui s'inscrivent à l'heure actuelle que c'est un avenir, disons, envisageable, plausible. Mais dans les faits, on constate quand même dans l'insertion à un an une baisse caractéristique. Par exemple, les docteurs 2013 n'ont pas eu un taux d'insertion dans l'enseignement supérieur aussi élevé que leurs prédécesseurs. On est à 7,5% à un an. Alors, on peut dire à 3 ans, ce sera supérieur, mais je crois que nous aurons du mal à atteindre les 50 ou 53% qui étaient la norme encore il y a un an ou deux. C'est un message qui passe très mal. Un message qui passe très très mal auprès de nos doctorants qui savent la réputation quand même de l'université Lille 3 en particulier, qui savent la réputation de l'école doctorale et qui pensent avoir une chance. Bon, il faut bien leur dire que malheureusement ce n'est pas le cas. Alors il est question de savoir comment on va pouvoir adapter la formation doctorale pour au mieux les 50% qui n'intégreront pas l'enseignement supérieur, parce que s'il y en a 54%, ça veut dire qu'il y en a 46% qui, évidemment, restent en rade. Donc, en fait, toute notre énergie a été portée vers, ces dernières années, vers, disons, une évolution des mentalités, faire évoluer les mentalités pour inciter nos doctorants à envisager l'insertion dans le monde non académique comme une insertion valorisante. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Quand on parle à nos doctorants, qu'on leur dit, ben voilà, vous faites une thèse en littérature française, il faut que vous ayez un plan B. C'est en ces termes-là que je m'exprime. Je leur parle à tous, hein, je les rencontre tous et je leur parle à tous d'un plan B. Hein. Et la réponse est oui, mais l'insertion en dehors du monde académique est un échec. Donc, Notre travail, c'est de les convaincre que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un échec, c'est véritablement tout aussi valorisant. Il y a des expériences professionnelles dans d'autres domaines qui sont tout aussi intéressants, valorisants, peut-être plus porteurs financièrement d'ailleurs que l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'on a entendu parler beaucoup d'argent par les entreprises ces derniers jours. Donc, nous avons le souci de proposer toutes ces dernières années des formations à visée professionnelle. Alors c'est vrai que nous poursuivons tout ce qui peut être la formation scientifique de haut niveau avec l'aide des laboratoires. Donc une des questions posées, c'était est-ce que les laboratoires doivent être impliqués dans la formation doctorale? Chez nous, c'est clairement oui. Toute la formation de spécialité, elle est proposée par les laboratoires. L'école doctorale, pour sa part, va proposer la formation interdisciplinaire d'une part et d'autre part va encourager les doctorants à suivre des formations visant à une insertion professionnelle diversifiée. Alors nous avons la chance à Lille d'avoir un collège doctoral qui propose un dispositif mutualisé d'insertion professionnelle très performant et très complet. Malheureusement, nous avons beaucoup de mal à faire en sorte que les doctorants SHS rejoignent les spécialistes de sciences pour l'ingénieur ou biologie santé ou même le droit. Là, nous les encourageons. Oui. Voilà. Nous les encourageons. C'est vrai aussi que de rencontrer des doctorants d'autres domaines, je crois, peut les aider. Et ceux qui font l'expérience, par exemple, de participer au doctorial, sont généralement très heureux. Mais qui participe principalement à ces formations? les spécialistes d'infocom et de psychologie. Donc on tourne un petit peu en rond, mais les chiffres montrent quand même une évolution, hein, une prise de conscience de la simple réalité. Alors il faut ajouter aussi, c'est quelque chose, je crois, qui peut être un petit peu tabou. Ça n'a pas beaucoup été évoqué entre hier et aujourd'hui. C'est que certains directeurs de thèse ont beaucoup de mal à envisager que leurs doctorants auront une insertion professionnelle en dehors du monde académique. C'est vrai qu'ils poussent. Et alors, la question a été évoquée ce matin, est-ce que les directeurs de thèse s'intéressent à l'insertion professionnelle ou à l'avenir professionnel, puisque on a dit qu'il ne fallait plus utiliser le terme d'insertion professionnelle, l'avenir professionnel de leurs doctorants. Alors, j'ai tendance à dire oui s'il s'agit d'intégration dans le monde académique. Je pense que les directeurs de thèse poussent leurs doctorants à réussir dans cette voie-là. Hein, ça, c'est une évidence. Dès qu'on leur parle d'entreprise, c'est vrai que le message passe un peu mal. Donc il y a tout un travail diplomatique à faire aussi auprès des directeurs de D, leur montrer les chiffres. Et c'est quelque chose qu'on a fait. On a procédé à une information responsable, de manière régulière, répétée, à la fois des doctorants, des collègues, parce que certains collègues découragent leurs doctorants de suivre des formations visant à une insertion professionnelle qui ne serait pas en lien avec le monde académique. Et ça bloque un petit peu les choses. Ce n'est pas le cas des directeurs de laboratoire. J'ai la chance de travailler de très près avec des directeurs de laboratoire très ouverts qui, eux aussi, font un travail à l'interne. Quelqu'un hier disait « il faut que les universités évoluent ». Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, c'est absolument indiscutable. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça se fait. Ça se fait peut-être pas aussi vite dans le domaine des SHS que dans d'autres domaines, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de doctorants SHS s'intéresser, par exemple, aux bourses CIFRE. Ça, il n'y en avait pas autrefois. Maintenant, ça commence à se développer. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, bien sûr, il n'y en a pas des dizaines, mais il suffit de quelques-uns pour entraîner les autres. Et je crois beaucoup, en fait, à l'entraînement par les camarades. Et chez nous, il se trouve qu'on a une association de doctorants qui est toujours pilotée par des psychologues et qui font ce qu'ils peuvent, ces doctorants, pour essayer de motiver leurs camarades. On a également la chance que la région nous ait donné la possibilité d'avoir deux post-docs insertion professionnelle des docteurs. On a ici une personne qui a un contrat postdoctoral dans ce sens, qui fait un travail absolument formidable auprès des entreprises, parce qu'il faut aussi démarcher les entreprises, faire connaître notre travail, montrer que les compétences transférables qui sont acquises au cours d'une thèse en SHS sont aussi intéressantes pour les entreprises. Et je suis très heureuse de pouvoir dire que le travail accompli toutes ces dernières années, ces 3, 4, 5 dernières années, commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que nous sommes finalement soutenus par un certain nombre d'entreprises, qui sont peut-être pas aussi dynamiques qu'on voudrait, mais quand même, qui sont maintenant prêts à nous écouter. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... Juste un mot. Je termine. Juste un mot pour dire que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle, parfois, du chaînon manquant entre les compétences SHS et les entreprises. Les entreprises nous disent « on a besoin de SHS ». Alors bon, les qualités rédactionnelles, éventuellement une expertise sur un domaine très précis qui peut être utile pour l'entreprise, mais le chaînon manquant n'est pas toujours clairement énoncé. On sait qu'on veut travailler ensemble, comment n'est pas toujours clair, mais nous y travaillons et les formations vont dans le sens également de faciliter le lien. Et les entreprises y sont associées.
Merci. Eh bien, je donne la parole à Mme Nogrette pour 10 minutes également.
Merci, cher collègue. Donc, moi, j'aborderai la question des doctorats artistiques, c'est-à-dire une question à la fois beaucoup plus spécifique, mais qui recouvre une grande diversité également. Alors, je parlerai à partir de, en fait, des trois domaines d'expertise et des trois expériences professionnelles qui ont été ou qui sont encore les miennes, puisque, d'une part, j'ai dirigé pendant 8 ans une école doctorale Arts et Médias, l'école doctorale 267 Arts et Médias de la Sorbonne Nouvelle, qui est une école doctorale qui recouvre à la fois certains domaines artistiques, puisque c'était... C'est une école doctorale qui a un gros secteur théâtre, qui a un gros secteur cinéma, esthétique aussi, et puis donc des secteurs en sociologie de l'art, sociologie de la culture, et médias, c'est-à-dire sciences de l'information et de la communication. Donc cette école doctorale qui recouvre enfin, ces différents domaines, une école doctorale qui... à peu près un effectif, c'est variable, mais un effectif d'ailleurs en constante augmentation, en tout cas pendant les 8 années que je l'ai dirigé, et qui est aujourd'hui à peu près de 300 doctorants. Cette école doctorale donc, m'a permis d'identifier déjà certaines spécificités, certaines questions liées donc à la délivrance de doctorat artistique. Alors, du point de vue effectivement de l'insertion professionnelle dont vous parliez à l'instant, puisque ces doctorats artistiques correspondent à des disciplines qui sont souvent d'ailleurs plus récentes et moins académiques apparemment que d'autres, notamment les études théâtrales ou les études cinématographiques qui ont été fondées il y a un demi-siècle environ, des disciplines où il y a des agrégations et des disciplines où il n'y en a pas. Et ça, c'est quand même une question qui est très importante, c'est-à-dire le lien, évidemment, les doctorats ne se font pas à partir de rien. Donc la formation qu'il y a auparavant compte beaucoup justement sur le choix du doctorant, sur son insertion professionnelle et donc une insertion plus académique souvent pour des agrégés et qui viennent d'un parcours plus classique. Et une insertion de type plus professionnel dans les entreprises pour des doctorants qui viendraient d'un parcours uniquement de formation artistique, voire de pratique artistique. Et ça, c'est une des questions que je vais soulever parce que c'est une des questions qui concerne justement notre domaine. Et du point de vue de l'insertion professionnelle, justement, il y a une grande évolution parce que c'est vrai que, également dans ces disciplines, si au départ il y avait une certaine résistance à la fois des doctorants, de leurs directeurs et du monde professionnel pour leur insertion dans ce type de parcours professionnel, il y a eu une évolution. On a par exemple beaucoup développé les chiffres aux côtés des contrats doctoraux, puisque comme vous le savez, dans les lettres, sciences humaines, disciplines artistiques, il y a très peu de doctorats financés. Donc ces contrats permettent justement de financer pas mal de doctorats, les stages de doctorat également. Et il y a tout un travail qui a été entrepris pour aller en direction des entreprises, alors que certains collègues, justement, dans nos disciplines, comme Monique Martinez-Tova, que je vois ici, et qui va intervenir tout à l'heure, a vraiment développé, enfin, ce travail de démarchage dont vous parliez en direction des entreprises. Monique en a fait quelque chose d'exemplaire, mais elle nous en parlera sans doute mieux que moi. Alors, ça me permet de parler du deuxième champ d'expertise à partir duquel je crois parler des doctorats artistiques, c'est le réseau CAM, le réseau Création Arts et Médias que nous avons fondé Monique Martinez et moi-même en 2010 et qui rassemble à l'heure actuelle 15 écoles doctorales en France, les principales écoles doctorales dans lesquelles justement il y a des secteurs création, arts et médias. Et donc ce réseau est très actif, ce réseau est un échange de bonnes pratiques, un réseau d'échange de séminaires, d'informations aussi. Il y a une base de données qui a été créée justement pour les possibilités de financement des doctorats sur le réseau. Et puis aussi c'est un lieu de réflexion, de mise en commun des expériences et de réflexion. Qui est tout à fait important et que nous avons choisi d'emblée de mettre sous le signe aussi de la dimension de création, puisque c'est une des particularités donc de nos étudiants et de nos doctorats, et une question qui se pose actuellement, c'est-à-dire que dans les disciplines artistiques, il y a bien évidemment, et qui est prépondérante, la théorie, la théorisation, la réflexion, la dimension esthétique, hein, qui se rapporte à l'objet artistique, mais il y a aussi la dimension de création, de pratique, hein, puisque souvent, et même dans certains de nos domaines, on ne peut pas, si vous voulez, s'engager dans une discipline artistique sans avoir soi-même une pratique. Donc cette question se pose, et elle se pose d'autant plus, de façon d'autant plus pressante actuellement, depuis le passage au LMD, que les écoles d'art, donc, sont censées avoir aussi, bien entendu, ces trois niveaux, LMD, et que, donc, il y a un équilibre, enfin, un ajustement à trouver, une bonne formule à trouver du point de vue du doctorat en art, pour intégrer cette dimension de création et de pratique. Et donc, notre réseau réfléchit depuis 2 ans environ, a fait des propositions, d'ailleurs, en ce sens, pour l'officialisation, d'une certaine façon, de ce qu'on pourrait appeler un doctorat en création, un doctorat en création, qui ne recouvrirait pas, évidemment, tous les doctorats dans les disciplines artistiques, qui n'en serait qu'une partie, et sans doute une petite partie, parce que dans certains domaines, il y a des questions, effectivement, de financement, et puis il faut vraiment une capacité chez les doctorants qui seraient dans des doctorats de création, c'est-à-dire avec une partie théorique et une partie pratique, une capacité à maîtriser les deux domaines et à théoriser la pratique et à fournir donc un objet artistique pour à l'appui de la thèse, qui n'est pas forcément le cas de tous les doctorants. Donc il faut aussi qu'il y ait cette liberté, mais il faut qu'il y ait sans doute, pensons-nous, une officialisation de ce statut de l'objet artistique en tant que tel, en tant que production pouvant entrer dans le cadre d'une évaluation de la thèse, qui correspondrait d'ailleurs à ce qui se passe du point de vue des expertises qui regardent les laboratoires, par exemple, concernant les domaines artistiques, où les productions sont prises en compte, les productions artistiques, pas seulement les publications, mais les productions artistiques. En même temps, ça permettrait d'harmoniser d'une certaine façon la diversité qui existe actuellement dans nos champs, puisqu'il y a certains domaines où cette pratique est assez courante, par exemple en art plastique, où la plupart du temps les doctorats comportent déjà la production d'un objet artistique, et d'autres domaines, par exemple les études théâtrales, je suis moi-même professeur en histoire et esthétique du théâtre, où ça n'existe pratiquement pas. Donc ça permettrait justement, et puis de réguler, parce que ça doit se faire dans des conditions, évidemment, de rigueur scientifique tout à fait nécessaires. Et donc, dans le cadre d'accords, de négociations et d'ententes, justement, entre les écoles d'art et l'université. Alors, la troisième de mes casquettes, si je puis dire, c'est justement d'être présidente de la 18e section du CNU, qui est la section art. Et si je vous donne l'intitulé de la section, ça va vous donner tout de suite une idée de la diversité des domaines que nous couvrons, puisque le seul intitulé de la section, c'est architecture, entre parenthèses, c'est théorie et c'est pratique, arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l'art. Et en fait, il faudrait encore rajouter d'autres mots-clés, si vous voulez, qui chaque année correspondent un peu plus à un secteur de doctorants et de doctorat, par exemple le design, la photographie, alors le théâtre évidemment est au rang des arts du spectacle, mais la danse, le cirque, évidemment les études cinématographiques qui sont également dans les arts du spectacle. Donc il y a une grande diversité qui est couverte et qui correspond bon an mal an environ 460 demandes de qualification par an, et où on voit passer justement des dossiers extrêmement hétérogènes, soit entièrement avec un tout théorique, ou alors une forte dimension, des dossiers de praticiens, hein, avec une forte dimension concernant la création. Et tout en partageant évidemment toutes les problèmes et les problématiques hein, liées au doctorat dans sa diversité, les problèmes de formation, de financement, d'insertion professionnelle, il y a pour nous en plus cette particularité du rapport donc du bon équilibre à trouver justement entre la formation à l'université et dans les écoles d'art et la dimension justement le développement d'un doctorat en création qui correspond d'ailleurs à une réalité donc souvent de la recherche à partir du master.
Merci infiniment. La parole est à vous, madame.
Alors, donc, je suis Sylvie Pommier. Je suis chargée de mission en fait, pour le montage du collège doctoral de l'Université Paris-Saclay. Je vais d'abord dire quelques mots pour me situer, puisque je vais intervenir, disons, en partie sur la partie scientifique, mais enfin, c'est pas, disons qu'au niveau du collège doctoral, ce n'est pas tout à fait... ainsi que ça fonctionne. Voilà, je vais donner simplement, pour ma part, en fait, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai ensuite fait une thèse en convention CIFRE et je fais partie des gens qui ont fait un repositionnement au cours de la thèse, non pas pour se repositionner d'un projet enseignement supérieur, recherche, vers un projet industrie, mais pour l'inverse, puisque je m'étais projetée au début dans un devenir professionnel dans l'entreprise. Après ça, donc, j'ai travaillé comme enseignante-chercheur à l'École Centrale Paris pendant plusieurs années, et puis j'ai devenu professeur des universités à l'École Normale Supérieure de Cachan, et j'ai dirigé à l'École Normale Supérieure de Cachan l'école doctorale de site, qui est une école doctorale qui est enregistrée en sciences pour l'ingénieur, mais qui en réalité recouvre un ensemble de domaines donc, qui vont des sciences de la vie de la santé, sciences pour l'ingénieur, sciences fondamentales et aussi les sciences humaines et sociales qui représentent à peu près un tiers des effectifs. Donc j'avais eu à cette occasion la charge d'établir une charte du doctorat commune et donc avec effectivement toute la question de la diversité, des pratiques, des valeurs en fait aussi et des devenirs professionnels des doctorants, comment les gens se projettent dans le futur. Donc ensuite, j'ai été vice-présidente en charge de la recherche et des études doctorales à l'UNS de Cachan. Et dans ce cadre-là, je me suis beaucoup impliquée dans le projet d'espace doctoral Paris-Saclay, et au niveau global, mais aussi, et ça a été une expérience assez intéressante, dans l'animation en fait, du montage de deux écoles doctorales parmi celles qui ont été mises en place, qui étaient deux écoles doctorales qui avaient une très forte restructuration puisqu'il s'agissait de recomposer des écoles doctorales principalement de sites. Donc l'école doctorale de sciences mécaniques, matériaux et géosciences, qui se trouvait dans mon domaine, et puis par ailleurs l'école doctorale de sciences humaines et sociales. Donc c'était une expérience très intéressante. Donc maintenant je m'occupe de ce collège doctoral. Alors ce collège doctoral, c'est vraiment un laboratoire de diversité en matière de formation doctorale, puisqu'en fait l'Université Paris-Saclay, et même le regroupement qui va au-delà de l'Université Paris-Saclay, c'est des établissements, donc 23 établissements avec trois universités, l'Université Paris-Sud, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, l'Université d'Évry. On a des organismes de recherche, le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INRA, l'IHES et j'en oublie sans doute, des grandes écoles, École Centrale Supélec, Polytechnique, ENS Cachan, AgroParisTech, Télécom et ainsi de suite. Et donc, on est ensemble avec le projet, enfin, même, on est plus loin que le projet, mais enfin, d'avoir un doctorat commun, une charte des thèses communes et, disons, un ensemble de bonnes pratiques communes, avec des pratiques qui sont extrêmement diverses. Donc, vous avez, je dirais, un intérêt très important à ce regroupement, c'est que la diversité, ça nous permet... peut-être de dégager déjà ce qui est partagé et ce qui est essentiel, de séparer ce qui est réellement des spécificités de ce qui ne l'est peut-être pas. Et donc on arrive à avoir ce travail qui est loin d'être fini, mais qui nous permet de synthétiser en fait ce qui nous rassemble. Par ailleurs, le deuxième intérêt, c'est qu'on peut aussi tirer avantage des particularités de chacun. C'est-à-dire que les bonnes initiatives qui ont été prises dans un domaine peuvent être généralisées, si possible, à l'ensemble, avec un travail pour le passage à l'échelle, parce que passer d'une école doctorale de 300 doctorants à une tentative à l'échelle de 6000, ben, c'est un petit peu difficile. Mais enfin, je pense que c'est là que se situe l'enjeu. Donc, on peut citer, par exemple, L'Université Paris-Sud a inscrit son collège doctoral dans une démarche qualité, mais on va essayer de généraliser le collège doctoral de Paris-Saclay. L'AgroParisTech est une école qui est très impliquée sur le développement de la validation des compétences, du livret de compétences du doctorant, donc on va mettre ça en place également. On a dans les différentes grandes écoles des parcours de formation pour des devenirs professionnels particuliers, tels que l'entrepreneuriat, avec le NSCHAN aussi, enseignement supérieur. Et avec, voilà, donc on va avoir des parcours qui seront dédiés à des devenirs professionnels qu'on va travailler ensemble. Alors, avec cette expérience, je dirais qu'on retrouve en fait des particularités, je dirais, on a en fait des familles de caractéristiques, enfin, selon les établissements, selon leur mission, et il me semble, enfin, de ce qui m'apparaît, que ça, c'est plus en fait la façon dont les établissements s'inscrivent dans des missions, dans des secteurs d'emploi. Quelle est la structure de ce secteur d'emploi en sortie? Quelle est la structure du recrutement en entrée des étudiants qui va faire les différences plus que typiquement les disciplines? Alors je dirais peut-être, on a entendu parler hier beaucoup de le docteur versus l'ingénieur. Bon, ben, ça c'est vrai notamment en sciences pour l'ingénieur ou en sciences fondamentales, ça se généralise pas dans tous les domaines. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va... poser vraiment des questions particulières à ce domaine-là, où il y a un véritable enjeu de démontrer quelle est la spécificité du diplôme de doctorat et qu'est-ce qu'il apporte de plus et de différent par rapport à un diplôme d'une école d'ingénieur qui est une voie sélective. Dans d'autres domaines, le doctorat, c'est un prérequis pour un grand nombre de devenirs professionnels et ça apporte un label. Alors, c'est d'autres domaines disciplinaires, mais ça peut être aussi d'autres domaines de provenance des doctorants, puisque quand on a cette question, si vous voulez, du placement du docteur par rapport à l'ingénieur de grande école, c'est une question qui est principalement française et qu'on a tout de même, dans les domaines scientifiques comme pour les autres, on a à peu près 50% de doctorants étrangers qui, eux, n'arrivent pas du tout avec ces attentes-là et ces questions-là et ces représentations-là de doctorants. Donc ils ne s'inscrivent pas dans les mêmes préoccupations que les doctorants qui sont venus par le système de formation français. Voilà, alors en termes de diversité, je dirais que pour moi, on a quelque chose qui est particulier au doctorat, c'est que c'est alors là, peut-être que c'est une vision qui est imprégnée en fait du domaine des sciences fondamentales sur le plan ingénieur, mais c'est un encadrement, une formation qui se fait par la pratique de la recherche dans un environnement professionnel de recherche. La recherche académique étant un environnement professionnel de recherche au même titre que la recherche privée. Donc cette formation, elle se fait par un encadrement personnalisé, ce qui, par des personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, ce qui au fond va limiter le nombre de doctorants. Et je ne parle pas en fait de la question du financement qui fait qu'on y consacre des moyens considérables, et ça aussi ça limite le nombre de doctorants. De fait, les docteurs sont en petit nombre, et même si on fait des actions pour recruter davantage de doctorants, le nombre ne pourra pas augmenter de façon considérable, puisqu'en fait il est lié au nombre d'HDR dont on dispose. Alors ça pose quand même des questions, parce que si on veut valoriser le doctorat auprès de jeunes qui ne se destinent pas nécessairement au doctorat, il faut que le doctorat soit visible. Il faut qu'il soit très clair, qu'on arrive à faire comprendre très clairement ce que ça apporte par rapport à d'autres formations. Et c'est vrai que le nombre étant petit, ça limite en fait la capacité à faire connaître ce que c'est que le doctorat. Donc on a un intérêt aussi à se regrouper, c'est pour ça que les communes vont permettre de donner de la visibilité aussi et de la lisibilité à la formation doctorale, simplement par effet de taille. Par ailleurs, par essence, la formation doctorale, c'est quelque chose qui est complètement personnalisé. C'est une formation qui est personnalisée. Chaque individu va avoir une formation différente parce que son projet doctoral est différent, parce que ses objectifs de devenir professionnel vont être différents. Et c'est même ça qui fait l'intérêt du doctorat. Parce que moi, je dis souvent aux doctorants, ou à ceux qui se destinent à devenir doctorants, en master, Vous, avec U5, enfin, si vous êtes ingénieur, vous connaissez l'existant, vous maîtrisez l'existant, les connaissances existantes, vous en connaissez les limites, vous pouvez transmettre ces connaissances, mais c'est en doctorat qu'on va les faire évoluer, qu'on va justement poser la question finalement, est-ce que ces connaissances sont toutes valables, est-ce qu'elles ne doivent pas évoluer, faire une analyse critique de l'existant et faire évoluer. Donc on ne demande pas du tout la même chose entre une maîtrise efficace et professionnelle des connaissances existantes et la remise en question de ces connaissances existantes, concepts, méthodes, technologies pour en produire de nouvelles, c'est des objectifs différents. Et ça passe par quelque chose qui est à chaque fois très individuel. Et donc, on a un enjeu de ce qui va faire la spécificité du doctorat par rapport à d'autres formations. C'est vraiment le fait que ce soit personnalisé et individuel, mais que pour faire reconnaître le doctorat, il faut aussi qu'on lui donne une visibilité qui passe par un certain nombre d'actions communes. Donc, je pense que pour ça, toutes les questions en fait, d'inscription dans une démarche qualité vont nous aider beaucoup. Et on a en fait un enjeu en fait de recrutement de doctorants, pas forcément en plus grand nombre, mais avec une plus grande attractivité pour avoir disons un niveau d'excellence au niveau doctorat et s'inscrire en fait dans la compétition internationale. Alors on a aussi vraiment je dirais la question de l'international qui se pose beaucoup, parce que ceux qui se projettent à l'international ou les étudiants étrangers qui viennent en France, les doctorants étrangers qui viennent en France, n'ont pas forcément la même représentation du doctorat, de leur poursuite de carrière, et donc pour avoir une vision en fait, du doctorat assez différente.
Merci infiniment, et votre conclusion sur les étudiants étrangers offre une transition parfaite.
C'est fait pour.
Merci et bravo pour entendre Madame Paul qui a pu traverser le Luxembourg pour nous rejoindre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, et toutes mes excuses.
Pas plus de 10 minutes.
Oui, je vais juste, j'ai quelques slides parce que j'ai quelques chiffres pour vous montrer un peu comment se répartit notre population de doctorants étrangers dont vous parlez justement de manière tout à fait intéressante pour voir la question des représentations que peut avoir notre population étudiante, doctorante assez différente. Et là, moi, je vais quand même rester plutôt, vous allez voir, sur un panorama en fait de l'internationalisation de la formation doctorale. Pour vous dire, alors juste j'ai reprécisé là, parce que comme c'était marqué sur le programme Mériès, que peut-être c'est pas très connu, donc que c'est une mission qui a été créée il y a un an au sein de la DGCIP et de la DGRI pour travailler les questions européennes et internationales dans le domaine donc recherche, innovation, enseignement supérieur, avec l'objectif vraiment de faire le lien entre, d'une part, Europe et internationale, et d'autre part, recherche, enseignement supérieur, puisque si on prend ces termes-là, et donc la formation doctorale est évidemment au cœur de cette problématique, même si on ne la travaille pas directement. Donc c'est vrai que quand on parle de l'internationalisation de la formation doctorale en France, je ne vais pas vous parler non plus dans le monde, je sais que vous avez eu quelques interventions aussi sur l'Europe, incontestablement c'est une réalité. Juste quelques chiffres justement pour vous dire, on dit toujours ce chiffre qui nous place parmi les pays qui accueillent le plus de doctorants étrangers, 42% de notre population doctorante être international, j'ai mis ici le terme international même si derrière les schémas parlent d'étrangers, parce que en fait nos doctorants étrangers arrivent en général soit en master soit directement pour le doctorat. C'est donc pas la part de la population étrangère résidente est très faible dans ces chiffres là c'est juste pour comparer 18% en master, 11% en licence. Donc c'est vrai qu'on est juste après la Suisse et la Grande-Bretagne un des pays dans le monde à avoir le plus de doctorants étrangers. On va voir qu'il y a quelques signes qui montrent que cette réalité n'est pas un fait acquis. Et on voit une croissance, si je regarde dans la part, puisque c'était 33% en 2003, donc et maintenant c'est 42%. Pour vous dire que le schéma dessous montre que, et on le sait, et ça représente tout à fait la structuration de nos populations étudiantes étrangères, hein, avec une place importante ici de doctorants qui ne viennent pas de l'OCDE, de doctorants francophones, il y a un autre schéma aussi sur les francophones, et là, avec un peu des différences selon les disciplines, je montre particulièrement le droit, l'économie et l'AES, et la gestion, où on a parfois plus de 60% de doctorants qui sont étrangers dans ces disciplines-là.
Si on regarde les diplômés, on avait là aussi les chiffres qui sont les chiffres qui viennent du ministère. Je n'ai évidemment présenté que les chiffres ici qui viennent de notre service statistique. On voit qu'il y a eu une très forte croissance des diplômés entre 2003 et 2012, hein, qui a un peu plus que doublé. Donc, parmi l'ensemble des diplômés de doctorat, 35% sont internationaux. Et là aussi, on retrouve bien sûr par les disciplines la structuration en francophone, non CDE, avec là aussi des orientations, des nationalités qui sont particulièrement dominantes dans notre population doctorale. Et il est intéressant de voir aussi la croissance très forte de la place des doctorants chinois, qui est maintenant la deuxième nationalité. Si je regarde les inscrits donc sur les flux 2012-2013, sur les diplômés un petit peu moins, mais une très forte croissance. Et c'est vrai que si on avait, si je vous avais mis la même chose sur ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, on verrait que, et là aussi ça dépend beaucoup des établissements, hein, quoi, il y a des universités, si je prends Berkeley ou si je prends Harvard ou dans le doctorat, dans le PhD Studies, on est à plus de 60-65% d'étudiants étrangers, avec une très très forte part dominante hein, d'étudiants, de doctorants, excusez-moi, chinois et indiens. Je mélange en même temps tous les chiffres qu'on a. C'est vrai qu'au ministère, on en fait les chiffres sur les étudiants étrangers et du coup, à cause de cette population globale des trois cycles, j'utilise des fois ce terme, doctorant, étant pourtant le terme approprié. Donc on voit là que, alors ceci dit, par rapport à la population justement globale étudiante, hein, où c'est plus de 47% qui proviennent d'Afrique, donc sur les étudiants doctorants, donc on voit qu'il y a une représentation avec quand même 21% d'Européens, mais je dirais presque seulement 21% d'Européens, et j'ai mis les Amériques ici au pluriel, parce que quand on regarde dans certaines disciplines, il n'y a pas beaucoup de doctorants d'Amérique du Nord. Là, c'est intéressant des fois aussi de regarder selon les disciplines, mais bon, je ne veux pas trop m'étendre. Par exemple, on voit que, toujours pareil, dans les lettres sciences humaines, je vois qu'il y a notamment une place importante des doctorants italiens. Alors, l'Italie est beaucoup plus présente, aussi pas mal en santé d'ailleurs. Ou le Vietnam, on voit qu'on les a en sciences. Maroc, Algérie, dans le domaine droit, économie et gestion, est également une nationalité. Ce sont deux orientations fortes. Et ceci, d'ailleurs, va être lié aussi à nos politiques de coopération. Parce que finalement, si on veut dire donc qu'on est attractif, c'est que le ministère aussi bien de l'enseignement supérieur et de la recherche que le ministère des Affaires étrangères ont mis en place, et ceci depuis des dizaines d'années, particulièrement encore depuis 10 ans, des dispositifs de coopération dans une perspective d'augmenter cette attractivité et également le rayonnement international. Donc j'ai juste cité ici quelques éléments qui... même si la stratégie internationale du ministère de l'enseignement supérieur s'inscrit aussi dans les logiques de diplomatie scientifique, si on regarde la perspective du ministère des Affaires étrangères, même si côté MAE l'idée c'est d'être un peu partout, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de programmes financés qui financent, c'est là où ma deuxième partie reprendra les difficultés, des bourses et... Voilà, comment peut-on être boursier alors qu'on est dans des logiques de première expérience professionnelle? Ça n'est pas simple. Mais je rappelle juste que le dispositif de co-tutelle internationale est un des premiers à avoir été mis en place dans le monde, et à une époque où ça se faisait beaucoup moins. Maintenant, ça s'est pas mal développé. Par contre, sur les co-tutelles, on voit que la place de l'Europe, il y a 40% à peu près de co-tutelles qui sont faites en Europe. Et dans l'important, je n'ai pas eu l'actualisation des derniers chiffres, mais on voit aussi que parmi ces co-tutelles, il y a une grande majorité d'étudiants étrangers, on va dire internationaux, plus que... doctorants, excusez-moi, français, enfin si ça a un sens de parler de nationalité justement dans la population doctorante qui, on le voit, est quand même extrêmement variée et internationale. Mais il y a un certain nombre de programmes où il y a des financements, je cite, il y a des fonds sur les États-Unis, sur le Canada, sur le Japon, sur l'Allemagne, donc là c'est des programmes spécifiques, bilatéraux. Il y a également, vous parliez des programmes CIFRE, enfin des thèses CIFRE, et il y a maintenant de plus en plus une demande très très forte parmi nos grands pays de coopération, et qui sont notamment dans les pays émergents, de mettre en place des thèses CIFRE, et donc on travaille aussi là-dessus. Il y a 10 par exemple doctorants CIFRE avec le Brésil, il y en a également avec l'Inde. Là je suis en retard parce qu'on avait un rendez-vous avec des représentants représentants cubains et ils sont intéressés aussi à terme ou par ça. Ou la Colombie aussi a rencontré récemment. Donc on voit bien qu'en tout cas en Amérique latine, c'est assez intéressant de voir ça particulièrement, ce dispositif semble très attractif. Il y a des programmes de coopération classique auxquels vous avez peut-être candidaté sur les programmes ibériques qui sont avec plus de 40 pays ou des programmes avec l'Amérique latine. Je cite le COFECUB qui là aussi, par exemple, dans chaque projet du COFECUB, il y a des financements pour deux docteurs, doctorants, ce qui permet là aussi d'alimenter et projets de recherche et formation doctorale et ensuite coopération pérenne. Les bourses du gouvernement français, je vais faire le lien après, sont également un instrument, en tout cas, du ministère des Affaires étrangères qui n'est pas nouveau, qui de plus en plus se centre sur la formation doctorale précisément, c'est master et doctorat, 36% du total, mais je vais y revenir parce que ça fait partie justement des questions ou des problèmes.
Je reviendrai très,
très rapidement, d'accord.
Parce qu'il nous reste une ou deux minutes.
D'accord. Il y a également d'autres sources de coopération au niveau des régions, des établissements et des communes. Vous parliez tout à l'heure de l'importance des communes en termes de lisibilité. Et certainement en termes de mutualisation des dispositifs de coopération, cela pourra avoir en tout cas des effets. Au niveau européen, donc ça je vais passer, puisqu'en plus hier vous avez eu quelques éléments aussi de notre collègue de la Commission, voir que la France se situe finalement évidemment toujours parmi les 3 ou 4 premiers pays qui répondent à H2020 et dans les différentes actions, même si ça n'est pas un fait acquis tout cela, car la concurrence est de plus en plus forte, on l'a certainement dit, et donc on voit non seulement la concurrence avec nos principaux, si là je prends un discours un peu de compétition, les États-Unis, l'Allemagne qui devient de plus en plus attractif, qui l'a toujours été, mais qui a vraiment des politiques de financement du doctorant international avec des cibles géographiques assez fortes. Et si on regarde bien les chiffres français, on a peut-être 42%, mais quand on étudie attentivement les flux d'entrée en 2003 et les flux d'entrée en 2012, il y a quand même une baisse des étudiants, des doctorants étrangers dans ces évolutions. Donc la concurrence est incontestablement aussi de plus en plus forte et les pays dits émergés, voire même néo-émergents, ont de plus en plus accueilli de monde. Et là aussi, on n'a pas du tout de chiffres consolidés sur la mobilité dite sortante, finalement. Est-ce que, en Allemagne, on me disait, tous les doctorants ont une expérience internationale. On voit bien aussi que grâce aux différents PIA, la BEX et là aussi, programme d'excellence, il y a des bourses de mobilité de plus en plus au niveau des établissements, mais il y a certainement des éléments à développer. Je passe aussi à H2020 pour dire qu'en fait il faudrait quand même sur les bourses Marie Curie notamment qu'on essaye, on pourrait, il y a encore vraiment des marges de progrès importantes. Pour terminer donc sur la question du financement précisément de ces doctorants étrangers, nous avons en cours des négociations assez importantes, enfin compliquées, sur la question du boursier justement. Peut-on être boursier doctorant avec une bourse du ministère des Affaires étrangères qui est autour de 800 euros, qui ne permet donc pas le financement d'un contrat doctoral et qui est une bourse de mobilité, mais du coup dans ces cas-là il faut effectivement avoir un autre type de financement. Peut-on aller vers des cofinancements? Ces bourses souvent passent par le canal de Campus France. Beaucoup de vos laboratoires passent aussi des contrats avec Campus France. Et donc, on a cette question qui est importante. De plus en plus, certaines formations et certains laboratoires refusent de prendre des boursiers du gouvernement français parce que, précisément, ils n'ont pas la bourse, en tout cas, qui leur est donnée, n'est qu'une bourse de mobilité et ne permet pas le financement global d'un contrat de travail. Donc là, il y a certainement, et on fait un travail avec Campus France, le ministère des Affaires étrangères, la CPU, pour voir comment on pourrait utiliser par ailleurs ces financements pour trouver d'autres cofinancements et permettre aux doctorants étrangers d'être ici dans les meilleures conditions possibles, ce qui incontestablement sera quand même un gage d'attractivité. On le voit dans les pays les plus attractifs, c'est aussi ceux qui financent le mieux les doctorants étrangers. Et pour terminer, on devrait aussi avancer avec une loi sur l'immigration qui est un peu en attente, vers, parce que c'est des questions aussi importantes, la question administrative des visas et des différentes contraintes. L'idée d'un passeport talent hein, est vraiment à l'étude et cela devrait permettre pour toute la durée des études et de la formation ou de l'expérience de travail ensuite, puisque ça aussi c'est certainement un élément fort, de voir comment nos docteurs étrangers peuvent ensuite s'insérer ou pas sur le marché du travail tout en évitant trop de brain drain. Donc là aussi, le passeport talent devrait permettre de favoriser en tout cas et d'alléger les questions administratives de visa. Donc, je m'arrête là.
Merci infiniment pour ce panorama très éclairant et somme toute plutôt flatteur, même si il y manque inévitablement une donnée essentielle que vous ne pouvez pas avoir et que nous n'avons pas nous-mêmes, qui est de savoir si les doctorants qui viennent en France sont les meilleurs de leur discipline dans le monde. Certains oui, d'autres peut-être pas nécessairement. En tout cas, de ce tour de table, je retiens qu'en effet, il y a une grande diversité entre les disciplines, entre les parcours et même au sein d'un certain nombre de grands ensembles disciplinaires comme ceux que vous avez exprimés. Le sommet me paraissant atteint par la section de CNU que vous présidez, et dont je n'ai pas réussi à noter le nom complet, mais je crois que la dictée serait très longue.
Et il y a des points de suspension sur le site du ministère.
Il y a des points de suspension sur le site du ministère. Ça vaut mieux que des points d'exclamation. J'observe aussi que, de manière générale, nous nous posons tous la question de la place précise de nos doctorants qui n'ont pas d'ambition universitaire ou qui n'en ont plus sur le marché du travail, comme on dit, de leur place par rapport aux autres, les ingénieurs, les doctorants par rapport aux ingénieurs, par exemple. Que nous interrogeons aussi ou ne nous interrogeons plus sur l'attitude d'un certain nombre de nos collègues directeurs de thèse, mais manifestement les esprits quand même évoluent. Et quand s'agissant de la formation, et là les propos étaient particulièrement intéressants, j'ai l'impression que nous sommes quand même nombreux à chercher ce que vous avez appelé le chaînon manquant. Vous avez évoqué le chaînon manquant entre les SHS et l'entreprise, mais je crois qu'on pourrait, dans bien d'autres disciplines, se demander quel est le chaînon manquant entre la formation doctorale et l'avenir professionnel. Alors il y a eu des éléments de réponse, la démarche qualité, le livret de compétences qui m'inquiète un peu, mais vous pourrez nous expliquer, qui m'inquiète un peu, non pas dans son objet, mais par son intitulé. Ça fait un peu livret scolaire, livret militaire. Mais livret militaire, seuls les mâles de mon âge peuvent encore se le rappeler.
Je peux vous donner quelques détails et explications si vous voulez.
On le fera dans un instant. J'ai un peu trahi la mission que vous m'aviez donnée. Vous m'avez dit sévèrement une demi-heure pour le débat, il ne reste que 28 minutes, mais on y va. Donc un mot sur le livret de compétences, mais alors un mot d'une minute maintenant.
Hein. Alors après, en fait, le terme, on peut trouver d'autres termes si vous voulez, il vient de l'école doctorale à pièces, hein, qui a une initiative tout à fait reconnue dans ce domaine. L'idée qu'on aimerait développer, on est en train de mettre en place un appel à projet pour des parcours de formation dédiés à des devenir professionnels, y compris devenir professionnel enseignement supérieur de recherche. Et l'idée, en fait, c'est de construire une vision des compétences qui vont être différenciantes, qui vont faire la différence sur le marché du travail. Et pour ces compétences-là, de voir quel module de formation on peut apporter pour les développer et comment on peut les pratiquer dans le contexte de la thèse. Parce qu'il ne suffit pas de donner quelques heures de cours, il faut aussi le pratiquer dans le contexte de la thèse. Et puis il y a ensuite le livret, ben, je dirais, c'est ce qui est appelé dans le texte, les nouveaux textes, là, le portfolio du doctorant. C'est peut-être simplement acter tout ce qui a été fait au cours de la thèse. Voilà. Après, on peut trouver d'autres termes, c'est pas.
Livret de compétences, enfin, peu importe. Et je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes avant de poser une question ou de faire une intervention?
C'est l'aspect doctorat en création artistique. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est à travailler très certainement. Alors, création artistique, certes, j'ai évoqué en passant la pratique artistique, et je m'intéresse de près à l'évolution de l'enseignement de la musique, de la pratique musicale. Donc, nous avons réussi à faire un master de pratique instrumentale, ce qui a été, je crois, assez difficile pour les intervenants. Est-ce que l'on peut imaginer que l'on va arriver à faire un doctorat de pratique instrumentale comme cela se fait en Autriche ou peut-être en Allemagne, je ne sais pas. La difficulté, évidemment, étant que les formations dont on parle sont chapeautées par le ministère de la Culture et non pas par l'enseignement supérieur, par recherche. Alors, je sais bien que la Sorbonne et le CESN ont fait ça. La majorité des universités qui ont un CESND ont fait ça. Il y a la question de la masterisation, etc. Peu importe. Quelle est votre expérience là-dessus?
C'est à vous qu'il revient de répondre.
Merci de cette question qui, effectivement, concerne le cœur de notre débat au sujet du doctorat en création. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant, dans le doctorat, une dimension recherche qui ne concerne pas forcément les masters, étant donné qu'il peut y avoir des masters professionnels qui développent au niveau master des formations qui concernent une pratique et qui regardent moins la recherche fondamentale dans nos domaines et la théorisation d'une pratique. Alors, et pour ma part, en études théâtrales, on est justement d'ailleurs en train de réfléchir sur la question, c'est-à-dire qu'on a, à côté de nos masters recherche à Paris 3, on a développé un master professionnel, qui concerne les métiers de la production théâtrale, donc qui n'est pas d'ailleurs du côté de la création, forcément. Et puis, nous ouvrons l'an prochain un master qui s'appelle Théâtre en création. Et toute la question en ce moment est, et qui est posée par notre CFVU, et comment vous le qualifiez? Est-ce que ce sera un master pro, un master recherche, un master indifférencié? Il y a cette question qui porte là-dessus. Et alors, ce master donc, se fait en partenariat avec des écoles d'art, donc, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il est bien évident que, bien sûr, c'est à la fois le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est concerné, mais le ministère de la culture, puisque la plupart des écoles d'art dépendent, sont du côté culture. Alors, il y a vraiment il y a quelques doctorats qui existent, qui sont labellisés actuellement, de façon plus ou moins sauvage, d'ailleurs, je dirais. Il y a un doctorat en musicologie, effectivement, qui a été monté par la Sorbonne avec le CNSM, et qui donc... mais avec difficulté, grande difficulté. Il y a le projet SACRE, qui dépend de la commune PSL, mais qui est très spécifique, parce que c'est 30 doctorats financés, et qui sont donc à cheval sur des secteurs différents des arts. Par exemple, en théâtre, il y en a 3 avec le CNSAT, il y en a plus en art plastique, etc. Et pour l'instant, la formule n'est pas encore vraiment trouvée, d'ailleurs, entre la part de la création et le nombre de pages, ou simplement, enfin, ce que va représenter la part théorique. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité de réflexion, peut-être avec, d'ailleurs, des formules différentes à l'intérieur d'un doctorat en création. L'autre jour, recevions justement dans notre réseau un directeur d'école d'art qui lui revendiquait, alors il y a aussi un terme qui est très à la mode actuellement, qui est la recherche artistique, mais qui sert un peu de fourre-tout, et qui revendiquait le fait que simplement la production d'une œuvre pouvait constituer un doctorat. Donc, vous voyez, il y a vraiment un équilibre à trouver, et comme je le disais tout à l'heure, à la fois souple, bien sûr, selon les disciplines, mais qui soit sans doute sur fond de collaboration, de cohabitation et de partenariat entre les artistes et les chercheurs universitaires, disons, est un fondement d'exigences scientifiques qui fassent avancer les connaissances et les questions épistémologiques, si vous voulez. Voilà, en même temps que la création artistique.
Un mot, vous voulez, mais un mot.
Juste un mot pour compléter. Notre D est impliqué actuellement dans l'élaboration d'un doctorat création artistique. Et le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont l'air de bien s'entendre assez bien sur ce projet-là, qui est commun à notre école doctorale et une école d'art locale. Et par ailleurs, pour le contenu, il est question à l'heure actuelle, c'est encore en cours de négociation, mais effectivement, il y aura une œuvre à créer et un petit morceau de thèse traditionnelle. Hein, on se dirige vers ça, sur un modèle qui est un modèle canadien.
Je voudrais un instant, vous donner la parole dans un instant, mais faire trois brèves observations sur ce qui vient d'être dit à propos de votre question. Et d'abord, on a évoqué le M2. Notre sujet, c'est le doctorat, mais les deux sont liés. Et je pense que nous avons tous dans nos disciplines, en tout cas dans la mienne, un important effort pour expliquer aux employeurs de docteurs futurs la différence entre un M2 et un doctorat. Je suis frappé de voir que, en tout cas dans les milieux que je connais, beaucoup d'entreprises, d'administrations, de grandes administrations, de juridictions, même de cabinets, n'identifient pas bien la compétence particulière d'un docteur par rapport à un titulaire de M2 et qu'il ne faut pas se lasser de leur expliquer. De faire aussi attention d'ailleurs à la prestation supplémentaire apportée par le doctorant. Vous évoquiez est-ce que la production d'une œuvre peut être un doctorat. J'ai été confronté à la question suivante qui a d'ailleurs eu dans le cas que j'évoque une réponse négative. Est-ce que le fait pour un magistrat, est-ce que les conclusions d'un magistrat peuvent valoir œuvre doctorale? On a répondu non. Mais la pression est là. Enfin, nous connaissons tous, je pense, dans nos disciplines, relations inégalement amicales. Alors, ce peut être avec la culture, ce peut être avec la justice, le ministère de la justice, ce peut être avec le ministère de la santé, ce qui ne simplifie pas toujours la question que nous étudions. Madame. Excusez-moi, je ne sais pas, on n'entend rien. Enfin, moi, je n'entends rien.
Emmanuelle Hidalgeste, fondatrice de la société Adolf Métis, mais aussi docteur en art. À ce titre, je trouvais étonnant que finalement, on entend parler des doctorats en sciences humaines et sociales dans la salle table ronde qui porte sur la diversité et uniquement sur la question de la formation doctorale, comme si cette question de la diversité mettait directement et les sciences humaines et sociales et les étrangers comme des cas à normer.
Et puis ces doctorants-là, notamment souvent par rémunérés, ont aussi
pas de lieu de travail, donc peu d'endroits où ils croisent d'autres collègues, ce qui ne favorise pas justement la prise en considération des dimensions professionnelles de cette activité. Voilà, beaucoup de problématiques très très concrètes et très très pratiques en termes d'accès à la formation que j'aurais aimé entendre, sur lesquelles j'attends peut-être quelques mots de réponse.
Bon, alors vous soulevez plein de questions. Alors déjà, tout de suite, j'ai du mal à m'exprimer, ce ne sont pas les doctorants qui font le lien avec... on est d'accord, c'est l'école doctorale. J'ai parlé d'une post-doc, hein, mais il y a aussi le collège doctoral, il y a une personne qui s'occupe spécifiquement de ça au collège doctoral. Donc l'école doctorale fait ce travail-là de manière très, très assidue. Hein. Maintenant, vous soulevez des vrais problèmes. C'est vrai que dans mon école doctorale, il y a 48% de salariés... au moins à 50%, qu'ils ne sont pas tous à Lille. Ils peuvent être à distance. Donc la distance géographique complique également la question pour les formations. On n'a pas de solution idéale. Il y a des formations le samedi. Hein. Il y a également des possibilités qui sont données aux salariés de faire durer la thèse un peu plus longtemps. Mais on n'a pas de solution. Hein. Je veux dire, c'est une vraie question, la question du financement. Alors, je dois dire que ces dernières années, quand même, à la fois les universités et la région ont, augmenté le nombre de financements. Mais on reste à un nombre très très limité. Pour vous dire très précisément, 134 inscrits en 2014, 22 contrats doctoraux. Voilà. Alors il y a d'autres types de financement, des chiffres, des choses comme ça. Donc on arrive à une cinquantaine sur les inscrits 2014. Mais il y a 22 contrats doctoraux et ça représente déjà un gros effort par rapport au passé. Vous voyez, donc ça, voilà. Donc le problème, il n'est pas résolu et c'est vrai que il faut continuer à pousser les universités à avoir beaucoup d'argent pour financer des contrats doctoraux, hein, encourager le conseil régional à avancer dans cette direction-là. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous pouvez dire. Un mot sur ce que vous dites à propos de l'enseignement secondaire. Je vais même rajouter par rapport à ce que vous dites. Alors, c'est vrai que nous avons un taux d'insertion à 3 ans qui est excellent. Alors on doit avoir, je ne sais pas, on a 95%, enfin je veux dire, c'est pratiquement tout le monde est employé au bout de 3 ans. Seulement la proportion d'enseignants du secondaire et de personnes qui ont obtenu des emplois qui ne correspondent pas aux qualifications du doctorat, hein, est considérable. Donc il faudrait qu'il y ait en fait deux chiffres, qu'il y ait l'insertion professionnelle, alors là on est à 95%, c'est formidable, mais il faudrait voir quelle est en matière de niveau d'emploi la valeur ajoutée du doctorat. Et on revient sur ce que vous disiez, sur finalement le fait que les employeurs ne distinguent pas bien le niveau M2 du niveau Bac+8. Donc voilà, et c'est vrai que dans nos domaines, les humanités, il y a énormément de gens qui font des thèses, des enseignants du primaire et du secondaire, qui font des thèses parce qu'ils veulent échapper, hein, à l'enseignement primaire et secondaire, et qui font ça dans l'espoir de s'insérer dans le supérieur, et puis qui finalement échouent, hein, et qui restent dans leur emploi. Voilà.
Merci.
Philippe Landette, secrétaire adjoint de l'ANDES, l'Association nationale des docteurs. Alors, je remercie Mme Paul d'avoir abordé le problème des bourses du gouvernement français, qui sont des bourses de mobilité, effectivement. Je me demandais si, dans les disciplines où les financements manquent, est-ce que ces bourses pourraient être utilisées en contrevenant à la législation française comme des financements, des rémunérations de doctorants, et dans d'autres disciplines, dans les deux disciplines qui sont plus habituées à financer des doctorants, est-ce qu'il y aurait pas cette tentation, pour les étrangers en particulier, pour cette diversité-là, de passer par des modes de financement non contractualisés? Je pense par exemple à l'Infectiopôle Sud, qui est un RTRS, qui propose des bourses de 1 000 euros par mois, qui du coup sont utilisées par les doctorants étrangers essentiellement, sans contrat de travail, sans droit au chômage du coup, et sans possibilité de rester en France après la tête de leur soutenance de thèse, qui coïncide bien souvent avec la fin de cette bourse.
Ouvrez les cordons de votre bourse.
Non, mais là, vous avez, je veux dire, touché le point sensible de cette question. Hein. Effectivement, les bourses du gouvernement français ne sont pas compatibles avec, elles pourraient être ne sont pas compatibles avec une transformation en rémunération. Ce sont des bourses qui sont données à la personne. C'est pour ça qu'on a tendance, et ma langue souvent à fourcher, je dis étudiant, parce que effectivement, dans ces cas-là, au fond, on considère que c'est l'étudiant inscrit à l'école doctorale. Mais ça n'est plus le jeune chercheur qui travaille. Et donc, pour la transformer, on a discuté avec le ministère des Affaires étrangères, on a dit, au lieu d'en donner en quantité, cette quantité-là, vous pourriez transformer, il faudrait diviser par 3 le nombre de bourses allouées pour arriver à un équivalent salaire, charge sociale. Et donc, évidemment, là, le MAE dit, oui, mais alors dans ces cas-là, on perdrait un élément important de notre attractivité. Donc, ça ne peut pas aller. Et il y a une réflexion qui est en cours sur une évaluation de la politique de bourse du gouvernement français, une autre, il y en a à peu près tous les 6-7 ans, et qui, une réflexion donc, qui est vraiment menée pour dire, bon, au fond, est-ce que ce mécanisme-là, on le laisse au niveau du M et du M2, et au niveau du D, on met un mécanisme de financement d'un contrat de travail? Ce qui permettrait effectivement d'éviter des cas qu'on a vus, des redressements importants dans nos organismes de recherche sur le fait qu'ils avaient effectivement passé des contrats, notamment avec Campus France, sur des stagiaires, et donc 1 000 euros précisément, et que ça a été considéré comme un détournement de charges sociales et un redressement de 2 millions d'euros. Donc c'est vrai que la question, vraiment, on la pose depuis pas mal de temps, depuis que je suis arrivée au ministère un an et demi, il y avait déjà un projet de circulaire pour les doctorants étrangers qui posait cette question-là, des libéralités, et donc on n'a pas encore trouvé la solution, mais on est vraiment en phase d'exploration intense pour éviter d'une part d'avoir amélioré les conditions de travail et permettre, parce qu'effectivement le passeport talent qui va se mettre en place et donc la possibilité ensuite de travailler après sa thèse est liée évidemment aussi aux conditions de travail des personnes. Donc on a vraiment encore beaucoup de chemin devant nous pour traiter cette question de la qualité versus quantité. Enfin, c'est un peu réducteur, mais il y a quand même un petit peu de ça. Et juste un petit point, moi, sur la diversité, je me demandais aussi, mais je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans le programme comment étaient composées les tables rondes, je me suis demandé pour, madame, renforcer votre... si aussi diversité n'était pas liée à femmes, parce que la parité, en tout cas, n'est pas complète dans cette table ronde.
Vous accorderez à la partie mâle, qu'elle est tout de même très bien entourée.
Bruno Bosti, merci par ici. Deux points, je voudrais d'abord remercier Mme Maignan pour nous avoir démontré finalement que la problématique de ce que c'est qu'une école doctorale et qu'est-ce qu'elle doit faire est quelque chose de totalement transverse et dans lequel la notion de spécificité disciplinaire est quand même assez peu absente. Pour avoir observé ce qu'on a fait à Paris Sud, qui couvrait des champs disciplinaires certes plus restreints que ce qu'on a à Paris Saclay, clairement, on a des problématiques, tout ce que vous avez évoqué, sur ce qu'on a à faire pour amener les doctorants dans les formations, les batailles qu'on a à mener contre les directeurs de thèse. Je peux vous citer des domaines de sciences très durs, très inhumaines et très asociales, dans lesquels on a exactement les mêmes problématiques. Donc fondamentalement, et je rejoins ce que disait Sylvie Pommier, la question est plutôt de savoir si, d'un point de vue presque sociologique, on a des pratiques, des situations, des paysages qui sont différents à certains endroits, qui nécessitent des interventions et des outils et des procédures particulières, plus que de savoir si le droit, la chimie sont vraiment si différents que ça dans ce que c'est qu'un doctorat. Et quand on commence à évoquer la problématique de l'ouverture vers d'autres débouchés professionnels, on s'aperçoit assez rapidement qu'on a exactement les mêmes enjeux et les mêmes questions. C'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, ça a été légèrement évoqué sur la problématique des enseignants du secondaire qui font des doctorats. Je pense qu'il y a un élément de diversité qu'on a oublié ici. C'est exactement quel type de doctorant on a dans nos formations à l'heure actuelle. La problématique des professionnels en activité, alors pour des bonnes ou mauvaises raisons, c'est-à-dire en particulier ceux qui ne sont pas là parce qu'ils ont une activité professionnelle strictement alimentaire, mais qui sont dans une activité professionnelle et qui intègre un projet de formation doctorale, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver uniquement dans les sciences humaines et sociales. On parlait de la santé, je peux vous citer des chiffres, il y a des écoles, on a une école doctorale de santé publique, les professionnels ayant une activité qui poursuit un doctorat dans le cadre de cette activité sont majoritaires dans cette école doctorale-là. C'est-à-dire le schéma du doctorant qui sort de son master pour avoir son contrat doctoral et préparer son doctorat en 3 à 4 ans est un schéma minoritaire. Donc bien évidemment, d'un point de vue de ce que c'est que la formation doctorale, de comment on organise une école doctorale, c'est une dimension à prendre en compte absolument, et c'est un élément de diversité qui n'est pas lié spécifiquement à la discipline, qui est lié aussi à la, aux trajectoires individuelles dans un domaine, dans un secteur professionnel. On pourrait parler des stages, on a exactement le même genre de... Donc on retrouve ces choses-là de manière aussi transverse. Donc je pense que c'est... Et ça, pour le coup, de la même manière que la question de l'internationalisation, c'est des choses qui posent des problèmes sur le fonctionnement d'une formation doctorale, y compris dans une même discipline vue d'un point de vue scientifique. Parce que on évoquait la question des horaires et de l'accès aux formations. Vous imaginez bien que même quand vous êtes ingénieur d'études au CNRS dans un laboratoire de physique et que vous préparez votre doctorat en même temps et que vous êtes ACMO, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité hygiène et sécurité du laboratoire, votre disponibilité pour préparer votre doctorat, aller vous former, etc. est quand même moindre que quand vous êtes beaucoup plus en situation de préparer exclusivement votre doctorat. Donc je pense que c'est un critère qu'il faut prendre en compte aussi. Merci.
Merci.
Donc Jean-Dominique Pollac, directeur de l'Institut de formation doctorale à l'Université Pierre-Marie Curie. Je voudrais revenir sur les bourses du ministère des Affaires étrangères et le financement des doctorants étrangers. Donc il y a une solution simple, celle que j'ai conseillée au directeur d'école doctorale, c'est-à-dire fusée, comme vous l'avez signé au GRU, ils étaient d'accord, ça serait... Pas vraiment d'accord. Mais si vos statistiques et la position du ministère, c'est que c'est un élément important de l'attractivité ou de l'évaluation internationale de nos écoles doctorales, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode ? C'est-à-dire qu'il faudrait encore que... Bon, moi je ne suis pas complètement convaincu que ce soit intéressant. Il faudrait faire une étude en complet et regarder le retour sur investissement, parce que ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient travailler rapidement chez vous, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Mais puisque nos statistiques montrent que l'essentiel d'entre eux vont retourner dans leur pays, est-ce que la solution CIFRE, ce serait pas une bonne idée de prise en charge des charges patronales par le ministère, par la France, à la manière des bourses CIFRE?
Si vous souhaitez, mais nous savons bien que ce n'est pas vous qui pouvez prendre cette décision.
Mais on cherche des solutions, c'est vrai qu'on regarde...
Qui paraît raisonnable.
C'est ça, qui paraît raisonnable. C'est vrai que le travail en coût complet est certainement tout à fait indispensable à faire. On le fait pas du tout assez, notamment dans le travail avec le ministère des Affaires étrangères. Il y a également la question des bourses. Alors, je vous rassure, beaucoup d'écoles doctorales ne prennent plus les boursiers du gouvernement français, en tout cas dans les sciences non humaines et sociales, c'est très clair. Et c'est justement comme ça que la question s'est posée. Mais on a également l'autre question, qui est celle des bourses des gouvernements étrangers, puisqu'en fait on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont financés par leur gouvernement. Et si je prends le cas du Brésil que j'avais juste cité, c'est là, le gouvernement brésilien ne veut pas que le Brésilien ait un contrat de travail. Alors après, ça dépend aussi de la question des durées, parce qu'on se rend compte que sur les bourses du gouvernement français, en grande partie c'est des bourses quand même de moins de 10 mois, voire même des bourses sandwich. Donc c'est aussi différent, il faudrait regarder étroitement quel financement le doctorant a dans son pays, quel est son statut. Mais bon, je ne glisserai pas sur le terrain de la prise en charge des charges sociales par le ministère. Il faudrait faire une analyse en coût complet.
Bonjour, Simon Thierry, la loi d'Antichère, et demande de poser la parole. J'ai envie de prolonger ce qu'a dit Bruno Bost et de le remercier sur le fait que je pense qu'il faut à tout prix éviter de trop différencier par discipline doctorale, essayer de garder l'unité, mais ça a été dit par la plupart d'entre vous. Pas d'uniformisation à tout prix, mais éviter des doctorats différenciés. Et j'ai envie de revenir du coup sur ce qu'a dit Didier Truchet. Vous avez dit on essaye bien sûr d'adapter le doctorat pour que les docteurs en droit soient plus opérationnels. Et moi, j'ai envie de vous dire non, surtout ne l'adaptez pas. N'adaptez pas votre doctorat. Ce qui fait la valeur de vos docteurs en droit, c'est leur expérience de recherche. Et donc, ne l'adaptez surtout pas. N'ayez pas d'exigence scientifique plus basse ou quoi que ce soit. Oui, il faut mettre en place des espaces de rencontre avec les entreprises et il faut des éléments de formation qui les sensibilisent aux réalités entrepreneuriales, mais c'est la seule et unique chose qui est adaptée. Le reste, surtout, s'il vous plaît, n'y touchez pas. Et puis un petit point de détail, désolé d'être encore embêtant sur le vocabulaire, on a été nombreux à vous embêter sur le vocabulaire pendant tout ce colloque. Madame Ménon, vous disiez que vous expliquiez aux doctorants qu'ils ne devaient pas considérer les carrières non académiques comme un échec et qu'il fallait du coup que dès le début ils pensent à un plan B. Ça signifie que le plan A, c'est la poursuite en monde académique et que donc la poursuite par les fonds.
Tout à fait.
C'est leur langue, c'est pas la mienne. J'ai au contraire dit que moi, mon travail, c'était de montrer qu'il y avait d'autres perspectives professionnelles qui étaient tout aussi valorisantes. C'est ça. Mais leur expression, c'est que c'est le plan B. Hein. Donc voilà, il faut parler leur langue. Il ne faut pas non plus le nier, vous voyez. Parce qu'à force de faire des distinguos dans le vocabulaire, on arrive aussi à tricher avec la réalité. Et dans leur langue, c'est le plan B. Et en termes d'insertion professionnelle, dans leur cas, c'est vraiment de l'insertion professionnelle. Ce sont des gens qui n'ont pas travaillé avant non plus. Donc, dans certains cas, le terme s'applique.
Moi, je voulais dire sur ce sujet-là aussi, c'est que tant que la réflexion sur le devenir de professionnel sera principalement portée par des gens qui sont très heureux dans leur métier, mais qui sont des académiques, naturellement, ils mettront probablement en avant, et ça imprègne effectivement les doctorants, comme plan A, le devenir recherche, enseignement supérieur, presque exclusivement. C'est pour ça que c'est important aussi que dans les conseils d'école doctorale et dans toutes les activités des écoles doctorales, on intègre les employeurs de docteurs de l'ensemble des secteurs professionnels et qu'ils viennent dire quelles sont les opportunités. Et c'est aussi pour ça qu'il faut envisager le financement, pas uniquement du point de vue des contrats doctoraux que peuvent donner les universités, mais aussi du point de vue des employeurs qui doivent former les nouveaux talents et donc fournir des financements. Et ça sert aussi à ce qu'on se positionne dès le début dans d'autres projets professionnels parce que d'autres employeurs ont fourni les moyens de former des talents.
Et je voudrais, en conclusion, vous rassurer, je n'ai pas le moins du monde l'intention, de toute façon, je n'en ai pas les moyens, ni le pouvoir, d'abaisser le niveau du doctorat en droit. Si j'ai sans doute dit adapter le doctorat, je pensais adapter la formation des doctorants. En revanche, il y a un vrai problème sur lequel le Conseil national du droit a beaucoup réfléchi, sur lequel il a mené des enquêtes, et qui était, faut-il ou non créer un doctorat spécialisé d'accès à la profession, un doctorat professionnel à côté d'un doctorat académique. Le Conseil national du droit a répondu non, et de toute façon, j'ai l'impression que la question est maintenant tranchée. Il y a une petite difficulté qui se pose à nous, qui est la durée de la thèse. Qui n'est pas lié à la qualité, mais enfin qui est quand même lié à la substance. C'est-à-dire que les milieux professionnels nous disent, alors très massivement, et on le sait bien avec le Conseil national du droit, si on veut bien embaucher un docteur, il ne faut pas qu'il ait plus de 27 ans. Je n'ai jamais compris pourquoi 27 ans, mais c'est une espèce de barre qui revient constamment dans les entreprises et les administrations. Et donc, il faut adapter la durée de la thèse et des études à cette barre implicite, non réglementaire, mais forte, des 27 ans. J'ai commencé en parlant du droit, j'ai fini en parlant du droit. Vous avez donc reconnu un juriste, excusez-moi, et merci d'avoir suivi cette table ronde.